Il y en a qui disent avoir vu les premières arriver, une vingtaine, du côté de l'hippodrome de la Sépierre, en 2009 ou 2010. D'autres racontent qu'ils en avaient déjà vu deux en 2005, Courdillon. À l'époque, on n'avait pas fait attention. Les rares personnes qui les remarquaient les trouvaient belles, insolites. Et puis, sans qu'on s'en rende vraiment compte, elles se sont installées, partout. Ici, à Toulouse, elles seraient aujourd'hui autour de 200. En Île-de-France, on en comptait environ 5300 en 2018. Dans la région de Londres, elles étaient près de 12 000. Mais il y en a aussi à Lille, Nantes, Montpellier, Milan, Naples, Amsterdam, Bruxelles. Leur nombre ne cesse d'augmenter d'année en année. Et dans toute l'Europe, c'est la même question qui revient. Faut-il avoir peur des perruches à collier ? Là, normalement, c'est le moment où vous les cherchez des yeux. Vous arpentez le boulevard de Strasbourg, entre Jeanne d'Arc et la rue de la Concorde, le nez en l'air, vous scrutez les platanes, mais rien. C'est pourtant dans cette zone que depuis plusieurs années, la colonie de perruches à collier de Toulouse a installé son dortoir. Mais comme souligne son nom, dortoir, vous n'en verrez pas forcément pendant la journée. Alors qu'au lever et au coucher du soleil, on ne peut pas les rater. Dans un raffut de cris stridents, une multitude d'oiseaux verts émeraudes s'agite autour des platanes. Si vous en voyez une posée, prenez le temps de l'observer. Une quarantaine de centimètres, un plumage vert clair et un bec rouge. Monsieur se distingue de madame et des jeunes par la présence d'un fin collier rose et noir, d'où son nom, perruche à collier. Alors bien sûr, les perruches ne sont pas originaires de Haute-Garonne. Jusqu'à il y a peu, on ne pouvait les observer que du sud de l'Inde à l'Himalaya et du Sénégal à la Somalie. Or, la question que tout le monde se pose est comment sont-elles arrivées là ? Chaque ville européenne a ses mythes fondateurs quant à l'arrivée des perruches. À Londres, on raconte que tout aurait commencé avec la fuite de quelques perruches en 1951 des studios de cinéma du Wharton Hall, dans l'ouest de la ville, où John Huston tournait African Queen avec Humphrey Bogart et Catherine Hepburn. On dit aussi que tout est la faute de Jimi Hendrix qui, en 1968 et en plein trip psychédélique, aurait ouvert la cage de son couple de perruches apprivoisées pour leur offrir la liberté. L'hypothèse la plus probable est beaucoup moins romantique. Depuis les années 70, la perruche à collier est un animal de compagnie très couru. Plus de 75 000 perruches ont été importées en Europe entre 1995 et 2000. Plusieurs grossistes en élèvent en France pour les vendre aux magasins animaliers. Et vu le nombre d'oiseaux vendus, une faible proportion d'échappement ou de lâchers volontaires suffit à expliquer la naissance de ces nombreuses colonies. Les perruches à collier forment une espèce grégaire. Elles vivent en colonies pouvant rassembler plusieurs centaines d'individus. La journée, elles circulent plutôt en petits groupes, à la recherche de nourriture, ou se reposent dans les arbres des espaces verts et des jardins. Mais quand tombe le soir, elles se regroupent toutes dans des dortoirs pour repartir à l'aube. Cette pratique du dortoir n'est pas commune à toutes les espèces d'oiseaux et s'explique bien souvent par le besoin de protection contre des prédateurs nocturnes ou la nécessité de se tenir chaud l'hiver. Mais ils questionnent les scientifiques, qui sont loin d'avoir percé leur mystère. Selon quelle organisation les oiseaux se regroupent-ils dans ces dortoirs ? Y a-t-il des petits groupes ? Choisissent-ils leurs voisins ? Communiquent-ils entre eux ? Quelles informations se transmettent-ils ? Les réponses à ces questions, maigres, varient bien évidemment selon les espèces, les lieux et les contextes. Ce que l'on sait des perruches, c'est qu'elles investissent leur dortoir principalement entre août et janvier. À partir de février, ils se vident. C'est le début de la période de reproduction et les couples vont s'installer sur des sites de nidification situés à d'autres endroits de Toulouse, dans des zones plutôt boisées, avec de grands platanes, dans les trous desquels ils font leur nid. Il ne reste au dortoir que des célibataires et les moins de 3 ans, pas encore matures. Le dortoir, comme les sites de nidification, est généralement réutilisé d'une année sur l'autre. La nidification se fait aussi en groupe, dans la limite des espaces disponibles pour nicher. Près de l'hippodrome à la Sépierre, on a compté en moyenne 20 à 30 couples. Chacun d'eux élève 2 à 3 petits dans l'année, qui sont nourris une quarantaine de jours avant de s'envoler. Les perruches semblent avoir le sens de la famille. Elles gardent des liens avec les moins de 3 ans. Ces derniers viennent fréquemment leur rendre visite en journée, avant de retourner passer la nuit au dortoir. Une fois que les petits savent voler, ils se joignent à leurs parents et à d'autres pour former de petits groupes familiaux afin d'apprendre leur environnement et repérer les différents sites utilisés par la colonie. Ils explorent, découvrent le dortoir et les sites de nourrissage où viennent les perruches en fonction des essences qui les intéressent et de la nourriture qu'ils vont trouver dessus. D'année en année, les zones de nidification se sont multipliées car on manquait de trous disponibles sur le site de l'hippodrome. Les parcours des perruches entre les différents sites, le dortoir, les sites de nidification et de nourrissage, se sont allongés et diversifiés. Et c'est finalement tout le territoire de la colonie qui s'est progressivement agrandi. Comme les groupes de perruches sont de plus en plus visibles dans le ciel toulousain, ils se font ainsi régulièrement repérer par les quelques individus fraîchement échappés qui viennent gonfler les rangs de la colonie. Ces évadés sont parfois faciles à identifier. Nés en captivité, ils ont pu être croisés avec d'autres espèces afin de faire varier leurs couleurs, bleu, blanc, éclatant, pour le plaisir des clients. Si les colonies grossissent, c'est que les perruches se plaisent bien dans nos villes. Nos espaces verts, nos jardins, nos cultures leur fournissent une nourriture abondante. En cas de disette, elles peuvent compter sur les mangeoires à oiseaux, dont elles ont totalement intégré le mécanisme, et qui sont parfois équipées de mélanges de graines spéciales perruches, placées là par des amateurs sous le charme. Les nombreuses cavités des platanes leur fournissent des nids douillets. Elles s'adaptent à merveille à nos climats. Seule une dizaine de jours de gel consécutifs les mettraient en difficulté, ce qui devient de plus en plus rare. Sans compter qu'elles n'ont plus de réels prédateurs, plus de mangoustes ou de serpents pour leur gober leurs œufs. Et puis face à la concurrence, ces nouvelles arrivées ne sont pas prêtes à se laisser faire. Dans les conflits, comme elles sont grégaires, elles ont généralement le dessus. Car les tourneaux s'amusent à chercher querelle, et c'est une dizaine de perruches qui lui tombent dessus. Quand elles débarquent dans les mangeoires, elles sèment la terreur. Une étude en Île-de-France a montré que lorsqu'elles viennent y picorer, c'est toute une série d'autres espèces qui s'en voient privées d'accès. Enfin, les cavités qu'elles utilisent pour nicher sont également convoitées par d'autres oiseaux, comme les citelles, les étourneaux, les chouettes. Mais comme elles se reproduisent très tôt dans l'année, dès février, elles sont les premières à occuper les lieux. Alors, les perruches se multiplient. Et cette multiplication n'est pas au goût de tout le monde. Certaines institutions sont même carrément inquiètes, parmi lesquelles la Commission européenne, qui a classé l'espèce parmi les 100 pires EEE d'Europe. Les EEE ? Parfaitement. Espèces exotiques envahissantes. Alien Invasive Species en anglais. Selon la Commission, cette appellation regroupe toute espèce allochtone dont l'introduction par l'homme, volontaire ou fortuite, l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes, entraînant des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives. Ce dont la perruche est accusée. Sauf que pour beaucoup de scientifiques, cette définition pose problème. À commencer par la corrélation douteuse entre exotique et invasif. Cela résonne étrangement avec une autre histoire. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la relation entre les politiques de gestion des migrants et celle de protection du patrimoine écologique américain est étroite. D'ailleurs, sous la présidence de George W. Bush, l'Animal and Plant Health Inspection Service, en charge des espèces envahissantes, a été rattaché au Homeland Security, la sécurité intérieure. Les scientifiques s'interrogent aussi sur la conception schématique qui divise les espèces en deux. Celles qui sont bien de chez nous, les autochtones, et celles qui viennent d'ailleurs, les exotiques. À partir de quand une espèce est-elle considérée comme autochtone et sur quel périmètre? Certains spécialistes qualifient une espèce d'autochtone dès lors qu'on en trouve des restes archéologiques. Mais ces traces varient énormément selon qu'on parle d'un végétal, d'un micro-organisme ou d'un mammifère. D'autres ont fixé comme période de référence le XVIe siècle, à partir duquel on sait que les échanges mondiaux se sont considérablement accélérés et avec eux les déplacements d'espèces. Pour ce qui est de la délimitation géographique, les critères varient selon les institutions. Plusieurs évoquent ainsi des frontières administratives, États, départements, qui bien sûr n'ont souvent rien à voir avec les réalités écologiques. Pour autant, la multiplication des perruches a des conséquences réelles. Et ce qui inquiète la Commission européenne, c'est notamment l'impact possible sur les productions agricoles. Dans les pays où leur présence est la plus importante, les dégâts sont considérables. En Inde, où elles vivent originellement, elles sont depuis longtemps considérées comme des ravageurs de l'agriculture. En Israël, dans les zones où elles se sont bien implantées, elles détruisent jusqu'à 70% des récoltes de tournesol. Et en Angleterre, un rapport de 2009 mentionne de graves conséquences pour les vignobles. Mais dans cette histoire, il ne faut pas oublier que les espèces envahissantes ne sont pas venues toutes seules. Comme le rappelle la définition de la Commission, le premier responsable des déséquilibres écologiques dont on accuse, entre autres, les perruches, c'est quand même l'homme. Notre espèce a de tout temps transporté avec elle une multitude d'organismes vivants, parfois involontairement, souvent pour des raisons économiques, agriculture, horticulture, élevage industriel, lutte biologique contre les nuisibles, etc. Pour autant, sur les nombreuses espèces importées par l'humain, seule une minorité s'acclimate au nouvel environnement, parmi lesquelles une petite portion seulement aura des conséquences négatives importantes sur l'écosystème autochtone et sera considérée comme envahissante. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, considère que les EEE sont la cinquième cause d'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale, loin derrière la surexploitation des ressources et la dégradation d'habitats, conséquence directe de l'action humaine. Mais alors, que faut-il faire des perruches ? Les prélever, pour reprendre l'euphémisme qu'utilisent les chasseurs pour dire le tir à vue ? Les stériliser ? Supprimer les œufs ? Les empoisonner en masse ? Aucune de ces violentes solutions n'est enthousiasmante, et les pouvoirs publics sont bien embêtés.